Nous allons passer cet après-midi de l'étude de l'ontologie du Christ chez saint Maxime, de l'ontologie entitative, ce qu'on appelle en scolastique l'ontologie entitative, je vais m'expliquer, à l'ontologie opérative. L'ontologie entitative, c'est l'ontologie des natures et de la personne dans le Christ. L'ontologie opérative, nous allons le voir, ben comme son le mot même l'indique, c'est l'ontologie des opérations. Opérations qui peuvent être immanentes et totalement spirituelles, comme sont les opérations, les puissances de l'âme, l'intelligence et la volonté, qui peuvent être aussi des opérations autres qui impliquent davantage le corps. Souvent, quand on parle d'ontologie, on pense uniquement aux natures, à la personne, et on oublie que toute la dimension opérative, c'est de l'être, c'est pas rien. Évidemment, c'est de l'être en acte second par rapport à l'acte d'être. C'est un acte opératif, donc un acte second, inévitablement. Mais c'est quand même de l'être. Et donc, cela a été étudié et cela a suscité des hérésies et des problèmes dans l'Église. Ça a été l'objet surtout du sixième concile œcuménique, réuni en 680-681 à Constantinople, troisième concile de Constantinople, et dont on peut dire que l'inspirateur, bien que mort déjà depuis pas mal d'années, dans les conditions que nous savons, a été Maxime le Confesseur. Donc, si vous suivez mon livre, après avoir étudié la personne synthétique, comme nous l'avons fait ces derniers jours, la personne composée du Christ dans Maxime le Confesseur, j'en viens à étudier le libre arbitre du Christ. Cette fine pointe, si j'ose dire, de son opération la plus personnelle, celle dans laquelle s'imprime davantage la personne. Je vous disais hier que ce qui nous est le plus propre, beaucoup plus ce qui nous singularise dans notre propriété personnelle, plus encore que les traits distinctifs de notre physique, c'est la propriété de nos actes libres. Nos actes libres nous appartiennent, ils nous façonnent et ce sont eux qui nous ouvrent ou nous ferment en définitive la vie éternelle. Dieu a voulu que nous méritions la vie éternelle, non sans la grâce, bien sûr. Hein? C'est lui qui nous donne de la mériter, mais c'est quand même nous qui la méritons. C'est ce que nous en faisons à travers nos actes libres qui méritent la vie éternelle. Et donc, cette ontologie opérative est extrêmement importante, voyez, parce que ça fait la jonction entre l'ontologie fondamentale ou entitative du Christ, sa nature et sa personne, ce qui a été étudié au concile d'Éphèse, de Chalcédoine et encore aussi au deuxième concile de Constantinople, qui est le cinquième concile œcuménique. Et puis cette autre partie de la christologie qui est la sotériologie, la doctrine du salut, le Christ comme rédempteur. Et la conséquence de cela, le Christ comme tête des sauvés, comme celui qui nous donne la grâce, par qui nous vient toute grâce. Toute la doctrine de la grâce capitale, etc., découle de cette ontologie opérative. Et l'ontologie opérative, bien sûr, se rattache à l'ontologie entitative des natures et de la personne. Donc, cette ontologie des opérations, de la volonté, etc., joue un rôle très important comme trait d'union entre l'être du Christ dans ses natures et sa personne et l'œuvre rédemptrice du Christ et l'œuvre divinisatrice du Christ. Donc tout ce qui va sortir de là, que ce soit pour la réconciliation de l'humanité avec Dieu, qu'opère le Christ comme rédempteur, ou que ce soit notre divinisation par la grâce du Saint-Esprit, tout cela découle de cette ontologie des opérations. Souvent, on dit que les pères grecs ont une doctrine de la rédemption qui est physiciste. Physiciste, qui vient de physis, c'est-à-dire que ce serait en assumant la nature humaine dans l'incarnation que, automatiquement, par une sorte d'automatisme ontologique, le Christ aurait assumé l'humanité tout entière à travers son humanité incarnée, et donc nous nous trouverions comme divinisés un peu par contact, par appartenance à la nature du Christ qui serait la nature générique du genre humain. C'est caricatural de dire ça parce que au fond, il n'y a que Grégoire de Nyssa qui a dit ça, et encore, je pense qu'il n'est pas très cohérent parce que par toute une partie de son œuvre qui est ascétique et mystique, on voit très bien qu'après, il montre tout un travail de la grâce en nous, etc. Si c'était seulement par cette assomption physique de la nature humaine que le Christ nous sauverait, il y aurait beaucoup moins de problèmes qui se poseraient et il aurait pu s'épargner toute une part de son œuvre qui est, c'est un très grand auteur ascétique et mystique, et si vraiment il pensait ça, il n'aurait pas écrit tout ce qu'il a écrit par ailleurs. Donc il faut voir plutôt cela comme une certaine incohérence chez Grégoire de Nyssa, ou peut-être sur une manière de parler métaphorique quand il parle de cette assomption par le Christ de la nature générique, la nature de toute l'espèce humaine, qui serait donc, ou diviniserait automatiquement l'humanité. Ce n'est pas du tout le cas de la plupart des pères grecs, qui ne tiennent pas cette conception d'une incarnation dans une nature commune. Nous l'avons vu hier, je vous en ai parlé, puisqu'on a vu que Maxime le Confesseur insistait beaucoup que l'union hypostatique se faisait par l'assomption des caractères les plus individuants de l'humanité particulière de Jésus dans les caractères hypostatiques du Fils éternel dans la Trinité. C'est là qui était le point de jonction que nous avons mis dans ce schéma. Et dans ce chapitre de mon livre, je consacre plusieurs pages, d'abord à la dimension rédemptrice, la dimension sotériologique des pères. En particulier, je cite longuement Grégoire de Nazianze. Donc vous trouverez tout ça dans mon livre de la page 117 à la page 126. Vous avez tout un premier paragraphe qui s'intitule « Christologie et sotériologie chez les pères grecs jusqu'à Maxime le Confesseur ». Sotériologie vient de soter, soter en grec veut dire sauveur. Sotériologie, donc, c'est la doctrine du salut ou le traité de la rédemption. Et je montre comment sa maxime, en fait, s'inscrit, n'est pas quelque chose comme un météorite tombé du ciel, mais s'inscrit dans tout un développement de la doctrine patristique orientale qui a, non seulement n'a pas ignoré la dimension rédemptrice de l'incarnation, mais au contraire, nous avons vu que pour elle, l'incarnation est le moyen rédempteur par excellence. Donc, La rédemption est le but de l'incarnation. La dimension rédemptrice est très importante, à tel point que Grégoire de Nazianze, dans sa fameuse lettre à Clédonios, que vous pourrez trouvé dans sources chrétiennes, dans les lettres théologiques, dans le petit volume de lettres théologiques, qui sont en fait des lettres christologiques de Grégoire de Nazianze, c'est le volume 101, le volume 208 de sources chrétiennes, c'est la lettre 101 à Clédonios, et dans les lettres théologiques, sources chrétiennes numéro 208, vous verrez que là apparaît ce qui est un véritable leitmotiv chez les pères grecs, surtout, qui disent, dans le Christ, ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Et Maxime le reprendra. Il fallait que le Christ ait une volonté, parce que si le Christ n'avait pas de volonté, notre propre volonté ne serait pas sauvée. Or, s'il y a quelque chose qu'il faut sauver dans l'homme, c'est la volonté, puisque c'est elle qui a péché. C'est par la volonté que le péché est entré, par le mauvais usage de la volonté. Donc, il faut que le Christ ait une volonté. Donc, tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. C'est quelque chose qui revient sans cesse dans la christologie des pères orientaux contre tout docétisme, c'est-à-dire contre toute tentation de vider l'humanité du Christ de son contenu, de sa consistance. De même qu'après, contre l'iconoclasme, on l'appliquera au corps. Il faut que le Christ ait un corps, et un corps particulier, pour que notre corps et nos corps particuliers soient eux-mêmes sauvés et ressuscitent. Donc maintenant nous allons nous reporter au jeu de texte que je vous ai donné, qui est le troisième. Le premier n'avait pas de 1, donc après je suis passé... Il y a eu un qui a eu, je pense qu'il y a eu ça. Je suis passé directement au 2 après, que le premier n'avait pas de 1, et après nous arrivons au 3e. Donc le premier jeu de texte était sur le dessein, le Christ dans le dessein bienveillant de Dieu. Le deuxième, c'était l'ontologie entitative du Christ dans son hypostase composée des deux natures. Et le troisième, c'est ce que j'ai intitulé l'instrumentalité du libre arbitre humain du Fils fait homme. Comment le Verbe opère à travers non seulement une volonté, mais même un libre arbitre, c'est-à-dire une volonté libre qui s'autodétermine, notre salut. Il ne l'opère pas seulement en tant que Dieu, mais il l'opère aussi en tant qu'homme. Donc, cet après-midi, nous allons étudier ces textes, commencer à les étudier. Probablement que nous serons obligé de déborder encore demain, et je vous ai demandé de préparer des questions auxquelles vous pourrez ajouter des questions sur ce que nous sommes en train de voir cet après-midi et auxquelles je répondrai demain, et s'il restait du temps, je vous dirai quelques mots sur la divinisation chez saint Maxime, qui est évidemment la conséquence directe de cette dimension opérative du Christ en nous sauvant. Le Christ aussi nous divinise, nous transforme, et ça correspond au chapitre suivant dans mon livre. D'abord un article sur la grâce du Christ, et ensuite un article sur la grâce d'adoption filiale par configuration au Christ chez les croyants, chez les chrétiens. Mais voyons d'abord comment la liberté, le vouloir libre du Christ sert, comment le Verbe s'en sert pour opérer notre salut. Le premier texte, vous l'avez donc au numéro 1, « Au commencement, l'homme reçut d'être créé à l'image de Dieu » et en plus de naître par l'Esprit selon l'élection, et d'obtenir d'être à la ressemblance de Dieu en gardant le commandement de Dieu, afin que le même homme soit créature de Dieu par nature, mais fils de Dieu et Dieu selon la grâce par l'Esprit. Vous voyez qu'ici, nous avons quelque chose d'assez intéressant. Tous les pères grecs, la plupart, mais pas tous, distinguent image et ressemblance. Vous savez, dans la création de l'homme, dans la Genèse, Dieu dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et nous avons là deux termes, eikone, image en grec, et ressemblance, homoiosis, ressemblance. Deux mots qui ont déjà grammaticalement déjà une nuance différente, puisque image n'implique pas quelque chose en mouvement, alors que à ressemblance, un terme en zis, en grec, indique toujours un mouvement. Comme d'ailleurs le mot français « ressemblance » qui vient en fait d'un participe présent indique quelque chose comme un processus. Alors que l'image est quelque chose de statique. C'est ce qui a amené les pères, la plupart des pères, déjà Saint-Irénée et beaucoup de pères orientaux, dont Saint-Maxime, à distinguer entre l'image et la ressemblance. L'image est donnée par la création. Au commencement, l'homme reçut d'être créé à l'image de Dieu. Et ça, c'est où les pères voient-ils l'image? Bien dans le fait que Dieu crée une âme spirituelle. Il donne à l'homme une âme spirituelle capable d'intelligence et d'amour. Une âme immortelle capable de Dieu parce que capable d'intelligence et d'amour. Dieu ne pouvait pas adopter comme son fils, comme son enfant, une pierre ou un arbre ou une bête. Il n'y a pas la base d'image. La ressemblance ne peut venir que sur un donné. L'image est un donné fondamental, si vous voulez, qui fait partie. Mais j'imagine que vous avez vu ça en anthropologie chrétienne, si vous avez fait le cours d'anthropologie, ce qui est probable. Mais donc Maxime, il y a l'image, mais il y a aussi la ressemblance. Vous voyez, au commencement, l'homme reçut d'être créé à l'image de Dieu, et en plus, qu'est-ce que c'est cet en plus? Eh bien, c'est la création en grâce. La création en grâce. C'est-à-dire que Dieu a voulu donner deux choses à l'homme, intimement d'ailleurs imbriquées, mais néanmoins spécifiquement distinctes, quelque chose qui relève de la nature et qui est l'âme humaine, spirituelle, et capable d'intelligence et d'amour, donc de personnalité, et en plus la grâce adoptive, et en plus de naître par l'Esprit, et alors cette grâce adoptive, elle va solliciter dans l'homme, quoi? La liberté, justement. Cette capacité libre qu'il a parce qu'il a une intelligence et une volonté. Et en plus de naître par l'Esprit selon l'élection, la proie irésiste, le libre arbitre, si vous voulez, et d'obtenir d'être à la ressemblance de Dieu en gardant le commandement de Dieu, afin que le même homme soit d'une part créature de Dieu par nature, mais fils de Dieu et Dieu selon la grâce par l'Esprit. Ça, vous voyez les deux choses. Vous voyez que les deux sont à la fois intimement conjointes par Dieu, mais en même temps spécifiquement distinctes. Hein. En plus, etc., hein, ce n'est pas la même chose. L'image n'est pas automatiquement par elle-même la ressemblance. La preuve, c'est que Adam a perdu par le péché, pour lui et pour toute sa descendance, a perdu non pas l'image, tous les pères sont unanime pour dire que l'image demeure, mais a perdu la ressemblance, a perdu la grâce. Donc ce sont quand même deux réalités spécifiquement distinctes, mais existentiellement conjointes. Alors quand on est très sensible à la dimension de l'exercice existentiel, comme le père de Lubac, on va voir beaucoup la dimension d'imbrication. Quand on a une philosophie plus tournée vers les spécificités essentielles, on va dire que dans un cas c'est quelque chose de naturel, dans l'autre cas c'est quelque chose de surnaturel, avec le danger de les séparer dans la première, dans le danger de les confondre. C'est une question simplement de, j'allais dire, de prudence, mais il n'y a pas à dresser l'une contre l'autre ces deux approches qui sont, qui chacune voit un aspect important de la réalité et du mystère. En effet, quand je continue le texte de Maxime, il n'était pas possible que l'homme créé fût capable d'être fils de Dieu et Dieu s'il n'était d'abord engendré selon l'élection par l'esprit au moyen de la puissance naturellement motrice d'elle-même et autonome qui l'unit à lui. Phrase typiquement maximienne où il y a tellement de choses que du coup on risque de ne plus savoir ce qu'il dit. Il n'était pas possible que l'homme créé fût capable d'être fils de Dieu et Dieu s'il n'était d'abord engendré selon l'élection par l'esprit. Arrêtons-nous là. La capacité effective, la capacité spécifique, elle est déjà dans la nature spirituelle de l'homme. Mais on sait très bien que l'homme n'a pas les moyens de connaître Dieu de manière, comment dire, par une vraie participation à sa vie, autrement que comme cause de tout le créé. Donc, pour que l'homme puisse vraiment devenir fils de Dieu, il doit être d'abord engendré par l'esprit selon l'élection, c'est-à-dire que son libre arbitre, sa libre décision soit engendrée, voyez, mue intérieurement par l'Esprit Saint, de telle manière qu'il choisisse le bien ultime et qu'il se livre à lui dans un acte de vraie charité. Et ça, c'est ce que fait l'Esprit Saint au moyen, donc vous voyez, par l'Esprit Saint, donc ça c'est la cause efficiente, mais qui passe par, au moyen de la puissance naturellement motrice d'elle-même, qu'est-ce que c'est? C'est l'autodétermination et autonome qui l'unit à lui. C'est la liberté. Dieu ne peut pas engendrer par l'Esprit Saint à l'adoption filiale quelqu'un qui est un esclave. Saint Thomas se pose la question, Dieu n'aurait-il pas pu créer l'homme en état de terme, en état de gloire, directement, ça aurait été, mon Dieu, pas d'enfer, pas de soubresaut, pas d'angoisse, pas de combat spirituel, pas de souffrance, pas de... Et il dit, ça aurait été moins parfait, parce que l'homme aurait été traité comme un esclave, et Dieu a voulu que l'homme nous donnait la... En nous choisissant comme fils, il a voulu que nous ayons la dignité, avec sa grâce, de choisir, de le choisir comme notre béatitude. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus noble, même si c'est beaucoup plus risqué. C'est ici qu'on peut dire avec saint Paul qu'il nous a aimés de manière folle. Ce texte qui a tellement frappé Élisabeth de la Trinité. Hein, ce texte de Paul, il nous a aimés à la folie. C'est fou, parce que ça aurait été beaucoup plus sensé, j'allais dire, soit de ne pas nous créer pour la vie divine, soit, s'il voulait nous créer pour la vie divine, nous y créer en état de terme, de vie divine accomplie. Nous serions venus à l'être en ouvrant les yeux à la vision béatifique. Mais. C'est notre dignité de personne libre. Comment peut-on traiter comme ça un fils? C'est pas possible. Vous voyez, toute la parabole de l'enfant prodigue, etc., est là pour nous expliquer cela. Un père ne peut pas se comporter comme ça et qu'il doit courir le risque de la liberté. Eh bien, Maxime a très très fortement conscience de cela. Oui.
Si le but final, c'est la béatitude éternelle,
Oui.
est-ce que ce n'est pas un bien supérieur que de prendre le risque de créer pour qu'il n'y ait peut-être pas cette béatitude? Est-ce que ce n'est pas un bien supérieur que de créer directement pour la béatitude?
Ah, comment vous répondre à ça? C'est une très bonne question. Je dirais que Dieu n'est pas conséquentialiste et que il ne foule pas aux pieds les moyens pour la fin. Il faut que les moyens soient en harmonie avec la fin. Et si la fin, c'est de faire, c'est pas la béatitude, c'est de faire un enfant de Dieu. Et ça se joue déjà dans les moyens avec lesquels il va traiter ses enfants. S'il les traite comme des esclaves, même un esclavage merveilleux, mais imposé. S'il n'associe pas l'homme à sa propre genèse, à sa propre, eh bien, il le méprise d'une certaine manière. Vous voyez, c'est incroyable. Vous voyez, je pense toujours à ça, j'avais prêché une fois comme ça pour le jeudi saint. Le Verbe de Dieu, Jésus, Verbe incarné, le jeudi saint, aux pieds de ses disciples, lavant les pieds de ses disciples. Qu'est-ce qu'il a lavé, les pieds? Et qu'est-ce qu'on fait avec les pieds? On marche. Vous voyez? Et quand on marche, on se fait mal, on se salit les pieds, quand on marchait avec des sandales et dans des routes qui étaient poussiéreuses, etc. C'est tout le devenir, le cheminement de l'homme. Et le Verbe rédempteur, le Verbe incarné, il est là, au pied de ses disciples, en leur lavant les pieds. Dieu aime nos pieds. Il aime notre cheminement libre. Vous voyez? Ce n'est pas seulement quelqu'un de conséquentialiste qui cherche à obtenir un résultat. Le résultat, c'est notre béatitude. Il nous l'impose. Ou alors il nous impose, nous programme de telle manière que nous ne sommes pas libres et que nous choisissons le bien de manière automatique. C'est toute la structure de l'alliance qui est sous-jacente à cela. C'est par des alliances successives que Dieu nous conduit à la fin. Et ça, c'est vrai déjà des anges. Si nous prenons la structure la plus fondamentale et donc la plus universelle par laquelle la créature spirituelle accède à la vie éternelle de Dieu, nous trouvons la grâce et le libre arbitre. Ça, c'est incontournable. Après, les autres choses, ça peut se décliner de beaucoup de manières. Comment la grâce est donnée? Ça sera très différent si on est chez les anges, chez Adam, en état de justice originelle, chez les hommes après le péché, avant la loi, après la loi, etc. Il y aura beaucoup de modalités. Mais l'élément fondamental, c'est celui-là. J'ai oublié de vous citer, quand je vous ai fait les premiers cours sur le dessein de Dieu, le Christ dans le dessein de Dieu, que moi j'avais commencé ces recherches, non seulement chez Saint-Maxime, mais aussi chez Saint-Thomas, dans ce livre. Mais il y a quelqu'un, j'ai eu quelqu'un qui était, d'une part un certain côté, il a été mon élève et donc un peu mon disciple, mais souvent le disciple dépasse le maître, et c'est la joie pour le maître, c'est le père François Daguet, 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 qui a fait sa thèse à Fribourg. Ça a été publié chez Vrin dans la collection Bibliothèque Thomiste sous le titre Théologie du dessein divin chez Thomas d'Aquin. Théologie du dessein divin chez Thomas d'Aquin. C'est la première fois qu'il y a eu une monographie sur le dessein de Dieu chez Saint Thomas. Et alors, ça, ce que je suis en train de vous dire là, il l'a dégagé très, très, très bien. Il a montré comment ça, c'est la structure fondamentale. Et après, on a des modalités qui sont des états de communication de la grâce. Mais l'élément fondamental, donc le but divin, c'est de nous conduire à la béatitude, mais par ces deux moyens fondamentaux qui sont incontournables, qu'on trouvera dans tous les états existentiels, la grâce et le mérite. La grâce qui donne de mériter, mais qui donne à une liberté de mériter. Si on n'est pas libre, on ne mérite pas. Or, Dieu veut que nous méritions notre béatitude. Il veut que nous le choisissions. Que nous... C'est là, voyez, où à la fois, c'est très beau, si on y réfléchit, Dieu est Père, parce que c'est une adoption, mais là, il ne se montre pas que Père. Parce qu'un Père, il ne demande pas qu'on le choisisse. Là, c'est un autre visage de Dieu qui apparaît. C'est... Quel est le... Quel... Qui demande à être choisi? Un époux. Dieu est époux. Il n'y a que Dieu qui peut. On serait en plein inceste hein, dans l'humain. Si un père qui est en même temps époux. Mais oui, mais il n'y a que Dieu. C'est réservé à Dieu. Dieu est en même temps père et époux. Et ça, vous avez le chapitre 17 du livre d'Ézéchiel, qui est une pure merveille, où vous voyez. Cette allégorie de Jérusalem, donc du peuple de l'ancienne alliance, ce petit enfant qui a été jeté, dont personne ne veut, etc., et Dieu qui passe là et qui l'adopte, qui le sauve, qui le prend, et qui le lave, etc. Et puis, il revient quelques années après, et qu'est devenu cet enfant? Une jeune fille. Une jeune fille. En âge nubile. Et là, c'est les épousailles. Et après, la trahison, etc. Vous voyez. Mais on voit très bien le passage de l'adoption à la nuptialité. L'adoption est fondamentale. Dans l'adoption, c'est comme dans le baptême, on ne le choisit pas d'une certaine manière. C'est un don fondateur de notre être chrétien. Et puis, l'Eucharistie. L'Eucharistie, la dimension eucharistique, qui est la dimension nuptiale. Dans le baptême, il y a déjà une nuptialité, surtout s'il y a une dimension d'un baptême d'adulte, forcément. Hein, mais c'est une nuptialité à peine amorcée. Quoi. Elle s'épanouit vraiment dans l'Eucharistie, où on rend à Dieu amour pour amour. Et donc, ça, c'est la dimension nuptiale. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui est sous-jacent. C'est qu'on ne produit pas la béatitude comme Dieu produit les galaxies. Saint Thomas d'Aquin dit que Dieu a mis plus de sagesse et de puissance dans la justification des hommes que dans la création de tout l'univers. Plus de sagesse et de puissance dans la justification de l'homme que dans la création de tout l'univers. C'est quelque chose d'inouï. Et ça, c'est le repos du septième jour, parce qu'on n'est plus dans du faire. On n'est plus dans du faire. On est dans un agir immobile d'attraction d'amour. Et ça, c'est le sabbat que nous vivons, puisque ça, les œuvres de la création sont terminées. Nous sommes dans cela. Bon, Maxime a écrit des choses magnifiques sur ça, hein, mais c'est une autre session sur la divinisation. Alors, deuxième texte. Lorsque par amour pour l'homme, le Fils unique et Verbe de Dieu fut devenu homme parfait, afin de faire sortir la nature des hommes de l'incapacité causée par le mal. Vous voyez que quand on dit que les pères grecs ne connaissent pas le péché originel, hein, bon, l'incapacité causée par le mal, hein, si ce n'est pas le péché originel, ils y croient, bien sûr qu'ils y croient au péché originel, c'est révélé dans l'Écriture, c'est de manière incontournable. Il portait en lui, de la nature originelle d'Adam, la seule innocence sans l'incorruptibilité. Tandis qu'il portait de la nature d'après la chute la seule passibilité sans le péché. Nous avons la structure fondamentale déjà de l'état du Verbe incarné. Il prend les conséquences physiques du péché, la corruptibilité de la nature, une nature capable de souffrir. Voyez que Jésus est fatigué au puits de la Samaritaine. Jésus souffre même aussi moralement quand il entre au jardin des Oliviers, il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il pleure devant le tombeau de Lazare, etc. Vous voyez donc le Christ passible est corruptible, donc il va mourir, son âme va se séparer de son corps réellement à la croix. Mais il ne revêt pas ce qu'on appelle la concupiscence, la fomes peccati, l'inclination au mal qu'a laissé la faute d'Adam en nous, évidemment, il ne l'a pas. La condamnation à la mort est la conséquence évidente du péché volontaire. Mort physique, mais aussi mort morale, incapacité au bien, dont il était question numéro 2. Le Seigneur assumant la condamnation de mon péché volontaire, à savoir la passibilité et la condition mortelle de la nature, s'est fait péché pour moi. Selon la parole de Paul, selon la passibilité, la mortalité et la corruptibilité, puisqu'il a revêtu de plein gré la condamnation de ma nature, quoique exempt de condamnation quant à son élection, sa capacité de choisir. Il n'était pas vicié. Quatrièmement, ayant fait des passions, vous voyez que je crois que ça ne demande pas beaucoup d'explications, maintenant ça se suit assez bien, mais vous n'hésitez pas à intervenir hein, s'il y a quelque chose qui vous fait difficulté. Ayant fait des passions de la nature, des œuvres découlant non pas comme chez nous de la nécessité de nature, mais de la puissance du libre arbitre. Ça c'est un thème qui est cher à Maxime et que Jean Damascène reprendra et qu'on retrouve encore chez saint Thomas. C'est que pour nous, la passibilité est quelque chose que nous avons mérité parce que nous sommes, compromis, solidaires d'une certaine manière du péché d'Adam. Donc, et que nous ratifions par nos propres péchés personnels ce péché originel. Donc pour nous, c'est un mal de peine, mais pour le Christ, ce n'était pas un mal de peine. C'était donc quelque chose de volontairement assumé comme rédempteur. Entre parenthèses, c'est un peu la même chose pour la Vierge Marie. Non pas qu'elle n'est pas comme le Christ, ontologiquement impeccable, mais elle n'avait pas le péché originel dans son inclination vers le mal. Ce qui fait que, curieusement, toute une partie de la tradition en Occident a voulu exclure dans la Vierge Marie toute souffrance, sauf à la croix. Là, c'était incontournable. Mais sinon, au point de dire que la Vierge Marie n'était pas morte, etc. Ce qui est une fausse interprétation de la dormition. La dormition, pour les Orientaux, il y a bien une séparation de l'âme et du corps de la Vierge, à tel point que dans l'icône de la dormition en Orient, on voit le Christ qui tient l'âme de sa mère exactement comme la Vierge Marie le tenait enfant. Il tient dans ses bras et Marie est couchée sur un lit de mort. La dormition, c'est le fait que la Vierge Marie n'a pas connu la corruption du tombeau. Son corps ne s'est pas décomposé, mais elle a été, et ça c'est l'âme. Je vous renvoie vers les catéchèses mariales de Jean-Paul II, où il a mis ça très très au point. Bien sûr, on peut tenir, c'est une opinion qu'on peut tenir, mais elle est très minoritaire et très tardive. Elle n'apparaît qu'en Occident et au XVIIe siècle, c'est-à-dire que Marie ne serait pas morte. C'est François de Sales qui est le premier, Saint François de Sales, qui est le premier à tenir cette opinion. Une opinion tout à fait vénérable, on voit bien ce qu'ils veulent dire. Ce n'est pas une mort tout à fait comme la nôtre, c'est vrai. Mais c'est néanmoins spécifiquement une séparation de l'âme et du corps. Et Marie, dit le pape Jean-Paul II, a pu mourir de maladie, elle a pu être malade, elle a pu se fatiguer, elle a pu souffrir, etc. Mais c'était quelque chose auquel elle s'associait librement, comme par un mystère co-rédempteur, voyez. Tout ça ne lui était pas dû puisqu'elle était sauvée radicalement par le Christ, par la grâce du Christ dès le premier instant de sa conception. Donc elle n'avait pas ces choses-là par dette du péché originel. Donc ça veut dire qu'elle les épousait, elle les faisait siennes par association au mystère rédempteur du Christ. Donc il met effectivement Marie dans une situation un peu différente de la nôtre. Oui.
Je comprends la séparation du corps et de l'âme du Christ, puisqu'il y a une descente aux enfers et Marie, on la présente beaucoup, effectivement, surtout en Occident, mais dans son corps et dans son âme, au ciel. Et donc finalement.
Ah, mais parce qu'elle est. Mais parce qu'attention, elle est ressuscitée. Je veux dire, les choses les plus anciennes qu'on a de la tradition, c'est que les apôtres l'ont mise au tombeau et ils sont revenus, je ne sais pas si le lendemain ou 2 jours après, et le tombeau était vide. On a, si vous voulez, on a une symétrie absolue avec ce que le Christ a connu. Alors, vous me direz, elle n'avait pas à descendre aux enfers, d'accord, mais ce n'est pas seulement ça. C'est, le Christ est descendu aux enfers, mais c'était aussi qu'il a fallu qu'il goûte la mort pour notre... dans l'Épître aux Hébreux, il y a ça, il a goûté la mort pour nous. Et il fallait qu'il assume la mort. Et Marie, si elle est corédemptrice, si elle est associée au mystère du Rédempteur, elle va connaître tout de son fils, toutes les étapes de son fils, parce qu'elle est unie totalement à ce mystère rédempteur. Et comme ça fait partie du mystère rédempteur, Marie y est associée. Ça c'est la ligne que donne la catéchèse de Jean-Paul II. Et qui est très riche, qui est très riche. En fait, toute cette catéchèse de Jean-Paul II, elle est le fil d'or qui l'amène de part en part dans sa mariologie. C'est le mystère de la corédemption. Ça, c'est très, très clair que c'est ça. Et c'est à la lumière de ce mystère de la corédemption qu'il montre, qu'il dit, il dit, regardons la tradition. La tradition va beaucoup plus dans le sens de la mort de la Vierge Marie avec résurrection. Vous savez que Pie XII n'avait, au plan du dogme, n'avait pas voulu trancher. Et Jean-Paul II non plus. Il dit qu'il ne tranche pas, il n'impose pas une doctrine. Mais il dit incontestablement la tradition va dans le sens plus de la mort et ça a un sens et le sens qu'il donne c'est la corédemption. C'est le fait que Marie vit tout ça comme une offrande elle a voulu connaître la condition la plus terrible la peine la plus terrible consécutive au péché, non pas qu'elle lui fût due à elle personnellement mais parce qu'elle est mère de nous tous, et donc elle veut être associée avec le Christ, à notre salut. Numéro 4, ayant fait des passions de la nature... Non, on était resté... Je relis le numéro 4. Ayant fait des passions de la nature, des œuvres découlant non pas comme chez nous de la nécessité de nature, d'une nature déchue, hein, mais de la puissance du libre arbitre, il a donc la volonté rédemptrice du Christ, il a parcouru ce qui en nous est naturellement passible jusqu'à la mort, en montrant en lui, mu par la puissance du libre arbitre, la passibilité qui, chez nous, peut mouvoir naturellement le libre arbitre. Donc, nous, notre libre arbitre souffre de la passibilité, des passions, alors que dans le Christ, les passions sont expression de son amour. Vous vous rendez compte? À tel point que saint Maxime a une phrase étonnante où il dit que les passions du Christ sont devenus pour nous des habitus. C'est-à-dire que ce qui dans le Christ était passible est devenu pour lui l'expression de son amour, l'habitus de sa charité qu'il nous donne comme modèle de vertu chrétienne. À travers ce qu'il a subi, en fait, il s'offrait. Et il s'offrait par amour, et cet habitus dans lequel il était de charité, eh bien, c'est ce qu'il nous communique dans la grâce capitale. J'ai ajouté, voyez, on trouvera cette même doctrine de la passibilité humainement choisie par le Christ chez saint Thomas qui l'a reçue à travers saint Jean Damascène. Et je vous donne la référence de la Tertia Pars où il est question à 2 reprises de cela. Numéro 5. En effet, s'il est vrai que la tournure de l'élection, du libre choix, introduisit en Adam ce qui, selon la nature, est passible, corruptible et mortel, il est vrai aussi que l'immutabilité de l'élection du Christ restitua dans le Christ, par sa résurrection, l'impassibilité, l'incorruptibilité et l'immortalité de la nature. Voyez-le. En corrompant sa liberté, Adam a entraîné la déchéance de la nature humaine, donc dans une nature qui est devenue passible, corruptible et mortelle. Et le Christ, assumant cette passibilité, cette corruptibilité, cette mortalité, mais par l'immutabilité de son libre arbitre, qui n'a jamais failli dans le bien, a rendu à l'homme, même accompli dans l'homme, l'impassibilité, l'incorruptibilité, l'immortalité de la nature dans la résurrection. Numéro 6, le Christ a rétabli la nature humaine par rapport à elle-même, parce que devenu homme, il a gardé son libre arbitre impassible et sans révolte par rapport à la nature, et même absolument inébranlable par rapport à sa propre base naturelle. Chez nous, le libre arbitre personnel, l'exercice du libre arbitre par notre personne, et c'est ça le péché, se fait souvent contre la nature, contre la loi naturelle, justement. Parce que nous croyons plus malins, et nous allons contre des choses qui sont pourtant inscrites dans la finalité de notre être. Eh bien, dans le Christ, jamais son libre arbitre était toujours, respectait toujours parfaitement la nature. Numéro 7. Vous me direz, nous avons jusqu'à 4h30, c'est ça?
Oui.
Encore 2 minutes. Numéro 7, le Christ nous a réconciliés par lui-même avec le Père et les uns avec les autres, en sorte que nous n'ayons plus le libre arbitre opposé au principe de la nature, et qu'ainsi nous soyons inaltérables dans notre libre arbitre comme nous le sommes dans notre nature. Ici, je ne vous ai pas mis les termes grecs, mais les principes de la nature dont il est question ici ou dans le précédent, c'était question du principe de la nature. Oui, ici, nous n'ayons plus de libre arbitre opposé au principe de la nature. Saint Maxime a une distinction. Je vais effacer ici cela. Une distinction très très importante qui traverse toute l'ontologie, même d'une certaine manière. Ce n'est pas la distinction comme chez saint Thomas de l'essence et de l'exister, qui elle est le propre du créé, qui distingue le créé du créateur. Saint Maxime a une autre distinction qui a son origine dans la Trinité, mais qui se reproduit dans le créé, en tout cas dans le créé libre, dans la créature spirituelle. C'est une distinction qu'il appelle la distinction entre le logos de la nature et le tropos de la personne. Qu'est-ce que c'est que le logos? C'est le principe naturel, ce que Dieu a inscrit. Logos, c'est une raison, c'est un principe. Tandis que le tropos, c'est la tournure que va donner à sa nature un être libre, qui peut la développer dans sa ligne, dans le bien, ou au contraire la fausser, au plan de sa liberté. C'est ce qui s'est passé avec le péché. Et en fait, voyez, ça commence dans la Trinité, puisque dans la Trinité, le Logos, c'est l'essence divine. Et là, le tropos, c'est la modalité personnelle, la modalité relationnelle des personnes dans la Trinité. Les hypostases. Donc, Saint Maxime va distinguer logos tes fuseos ou logos tes soucias et tropos tes hyparxéos, le mode d'exister des personnes, qui, bien sûr, à la fois ce mode d'exister lui-même fait partie de l'être divin, mais fait partie de l'être divin de manière trihypostatique, c'est-à-dire par trois relations, pour trois couples de relations des personnes. Et dans l'homme, eh bien, il y a la nature humaine, et le mode personnel. Nous avons déjà vu un peu lequel était le mode personnel pour l'homme. Ben, ce sont les propriétés particularisantes, individualisantes. Ce qu'on a vu hier. Mais encore beaucoup plus personnel, beaucoup plus singulier, c'est la modalité de l'acte libre. Hein? Ce que je choisis sur la base de ma volonté, hein, la volonté naturelle. Ce sera mon choix personnel. Et ça, il l'appelle gnomé. Je vous l'indique déjà, mais on va le retrouver. La gnomé, c'est pas seulement le libre arbitre, parce que le libre arbitre, dans son principe, il fait partie de la volonté, de la nature volontaire de l'homme. Hein, Dieu nous a donné une volonté libre, donc capable de choisir. Mais la gnomé, c'est la tournure personnelle que je donne à mon libre arbitre. Pourquoi ? Parce que je cherche le bien, naturellement ma volonté et se porte vers le bien. Mais il y a le bien ultime vers lequel elle m'attire, mais ce bien ultime, je vais l'atteindre par des choix limités qui vont progressivement me rapprocher de ce bien ultime qu'est Dieu. Et c'est là que ma volonté va faire des choix personnels qui peuvent être bons ou mauvais, dans lesquels les biens inférieurs, je les subordonne aux biens supérieurs, ou au contraire, je subordonne les biens supérieurs aux biens inférieurs. J'introduis un principe de désordre. L'agnomé vient d'un mot grec qu'utilise Aristote pour une vertu, comment dire, subordonnée à la prudence. La prudence, oh mon Dieu, j'ai déjà dépassé de 5 minutes, père. Il fallait me prévenir. Je vois soudain que j'ai débordé déjà de 5 minutes. On va s'arrêter là, puis je reprendrai sur la gloire après le coup.